Voilà, nous avons abordé une courte session donc sur la question de l'espérance biblique. Et le mois dernier, donc, j'ai commencé à poser quelques fondements quant à cette question de l'espérance. Qu'est-ce qui nous permet de parler d'espérance? Et en rappelant le fait que nous avons un Dieu qui se présente vraiment comme un Dieu qui a un dessein, qui a un projet, qui met en œuvre ce projet dans l'histoire. Et c'est parce que nous avons ce Dieu qui met en œuvre son bon projet que nous pouvons être dans une perspective d'espérance. Il est un Dieu qui est toujours devant, qui marche devant nous, qui nous accompagne, qui injecte de nouvelles possibilités dans notre vie. Et il a l'espérance au quotidien de la vie, accompagné par le Dieu de l'espérance. Il y a tout ce projet qui a été annoncé, qui s'est réalisé, qui trouve en Jésus vraiment son aboutissement, son fondement et toute sa base solide. Et donc c'était les premiers aspects que nous voulions souligner pour dire la force de l'espérance du point de vue biblique. Il ne s'agit pas d'un simple espoir, mais de quelque chose qui a une cohérence et qui s'est vraiment manifesté déjà dans l'histoire et qui continue à le faire et qui continuera à le faire. Et nous voulons maintenant parler d'un autre aspect plus particulier, c'est de notre espérance face à la mort. Et c'est vrai que la mort est une question absolument redoutable, et pouvoir parler d'espérance face à la mort est un grand bienfait, cela représente énormément. Mais il s'agit aussi de savoir ce qu'est notre espérance face à la mort. Et donc, c'est dans ces lignes que nous allons méditer ensemble ce matin. Et je vous invite à lire deux textes. Le premier se trouve dans 1 Corinthiens, au chapitre 15. Nous allons lire les versets 20 à 26 d'abord. 1 Corinthiens 15, versets 20 à 26. Paul vient de dire, d'affirmer la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, et ça nous renvoie à ce que nous disions la dernière fois. Mais il continue en disant, 1 Corinthiens 15, 20, « Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts, et il est les prémices de ceux qui sont décédés. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection d'entre les morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend pas vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, c'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Puisque Dieu lui donne un corps comme il le veut et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair est celle des hommes, autre chair des animaux, autre la chair des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi les corps célestes et les corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles, et même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection d'entre les morts. Semé corruptible, on ressuscite incorruptible. Semé méprisable, on ressuscite glorieux. Semé plein de faiblesse, on ressuscite plein de force. Semé corps naturel, on ressuscite corps spirituel. Car s'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est devenu, lui, un esprit vivifiant. Le spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Il s'agit d'Adam. Le second homme vient du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Et puis un deuxième texte se trouve dans 2 Timothée, chapitre 1, les versets 9 à 12, simplement. 2 Timothée 1, versets 9 à 12. Paul rappelle le salut, c'est Dieu qui nous a sauvés et qui nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Cette grâce a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit à l'impuissance la mort et qui a mis en évidence la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre et docteur. Et pour cette cause, j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Jusqu'ici, nos lectures. Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? C'est par cette question simple, mais tellement vitale, que s'ouvre le catéchisme de Heidelberg. Ce texte a été écrit en Allemagne au XVIe siècle pour enseigner et transmettre les essentiels de la pensée de la Réforme. Et cette question qui ouvre le catéchisme rejoint notre sujet de l'espérance biblique, puisqu'elle parle de la question « Quelle est ton assurance dans la vie comme dans la mort ?» Le Dieu de l'espérance, qui trace son projet dans l'histoire des hommes, éclaire en effet notre vie présente, ainsi que notre regard et notre approche de la mort. L'espérance chrétienne fait face à cet obstacle redoutable qu'est la mort. Elle le fait même avec assurance, comme le dit si bien cette question du catéchisme de Heidelberg. Quelle est ton assurance unique, ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? Cette assurance dans la vie comme dans la mort n'est pas celle de gens qui prétendraient tout savoir sur tout concernant la mort, ou qui prenaient ou qui prendraient la mort à la légère. Le catéchisme parle de notre unique assurance, dans la vie comme dans la mort. Il s'agit donc bien plus d'une assurance repère, d'une assurance fondation, que de l'assurance de ceux qui maîtriseraient totalement tous les tenants et tous les aboutissants. Alors je vous dois quand même la réponse que donne le catéchisme de Heidelberg à cette première question. Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort ? C'est que, dans la vie comme dans la mort, j'appartiens, corps et âme, non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle Sauveur. Par son sang précieux, il a totalement payé pour tous mes péchés et m'a délivré de toute puissance du diable. Il me garde si bien qu'il ne peut tomber un seul cheveu de ma tête sans la volonté de mon Père qui est dans les cieux, et que toutes choses doivent concourir à mon salut. C'est pourquoi, par son esprit, il m'assure la vie éternelle et me rend prêt et disposé à vivre désormais pour lui de tout mon cœur. Quel beau texte dans sa simplicité. Notre assurance se fonde en Jésus et en son œuvre. En Jésus, nous sommes mis au bénéfice de la bienveillance du Père et de l'œuvre puissante de son Esprit. Première question, à partir de quelle base envisage-t-on donc l'espérance chrétienne face à la mort? C'est indiscutablement à partir de Jésus-Christ, de sa mort et de sa résurrection. Le catéchisme d'Heidelberg le dit magnifiquement, dans la vie comme dans la mort, j'appartiens à Jésus-Christ, mon fidèle Sauveur. Avec cela, on a le cœur et le fondement de toute l'espérance chrétienne. Et ce qui est magnifique, c'est qu'un enfant peut recevoir ça, peut recevoir cela. Dans la vie comme dans la mort, j'appartiens à Jésus, mon fidèle sauveur. Un enfant peut recevoir cela. Un chrétien exigeant y trouvera matière à réflexion absolument et à pousser des réflexions très loin. Un homme simple peut s'en réjouir, j'appartiens à mon fidèle sauveur. Un mourant peut serrer cela dans son cœur au moment du grand passage. Et cela rejoint ce que dit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul décrit vraiment Jésus comme notre espérance. Quand il écrit à Timothée, il le salue au nom de Jésus-Christ, notre espérance. 1 Timothée 1, verset 1. Il est notre espérance par son œuvre, mais il est aussi notre espérance par le lien qui nous unit à lui. Et j'aime beaucoup ce que dit le catéchisme de Heidelberg. Il dit « J'appartiens à Jésus-Christ, mon fidèle sauveur ». Ce n'est pas juste « il a fait ceci, il a fait cela », mais « je lui appartiens et il est mon fidèle sauveur ». Le lien entre Jésus-Christ et la certitude de ce qu'il a fait pour nous. Essayons de préciser en quoi et comment Jésus est notre espérance. Il peut sembler de prime abord que c'est la résurrection de Jésus qui est le fondement de l'espérance chrétienne. Mais je crois qu'il faut dire que Jésus est le fondement de notre espérance, y compris face à la mort, d'abord par sa mort. Jésus est le fondement de notre espérance par sa mort. Et pas juste la mort qui lui permet de ressusciter, mais sa mort en tant qu'œuvre, en tant que sacrifice pour nos péchés. Alors cette affirmation particulière que Jésus est notre espérance à cause de sa mort pour nos péchés est liée à la conception biblique de la mort, qui considère la mort comme étant le salaire que mérite le péché, la conséquence du péché. Le salaire du péché, c'est la mort, dit Paul en Romains 6, verset 23. La mort physique et la mort spirituelle, qui est la séparation d'avec Dieu. Maintenant, dire que la mort est le salaire du péché ou la conséquence du péché, ce n'est pas l'observation du monde qui nous permet de le dire. Si on observe le cours des choses, si on observe la nature, si on observe les animaux, si on observe l'histoire des hommes, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que la mort est la règle. La mort est la règle. Et il est facile d'en conclure que la mort, ben, elle fait partie du cours normal des choses. Toute vie dans l'infinitude, la mort fait partie du cours normal des choses. C'est la nature des choses que les choses en soient ainsi. Ça, c'est que l'observation du monde nous amène à dire. Et en fait, c'est la révélation qui nous est donnée dans l'Écriture. C'est cette révélation-là qui nous dit que l'histoire est différente. C'est cette révélation qui nous dit que si les choses sont universellement comme cela maintenant, ce n'est pas simplement parce que c'est une réalité naturelle, mais parce que le péché est intervenu dans l'histoire des hommes et a entraîné la mort pour l'homme en image de Dieu. C'est ce qui apparaît dans le récit biblique des origines. Dieu, après avoir créé l'homme en son image, lui a fait la promesse de la vie. L'arbre de la vie était au centre de la bonne création de Dieu. Cet arbre de la vie représente la communion avec Dieu, qui est source de vie. Et l'humanité aurait pu y trouver les ressources d'une vie constamment renouvelée, sans la faille de la mort. C'est là ce que Dieu voulait. C'était là son projet bienveillant en créant. Mais assorti à ce projet bienveillant de Dieu, il y avait une condition. Dieu avait fixé une limite à notre liberté. C'est de rester à l'intérieur du cadre que Dieu nous fixe lui-même. Je te donne tous les arbres du jardin, liberté, ouverture. Mais de celui de la détermination du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Pas de celui-là, non. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé. notre déclaration d'indépendance par rapport à Dieu, cette volonté de déterminer nous-mêmes le bien et le mal plutôt que de le recevoir dans les limites que Dieu nous donne et en respectant ces limites, c'est ça ce qui a entraîné la mort physique et spirituelle. Et coupée donc du Seigneur de la vie et sous son jugement, l'humanité entière endure la mort. C'est désormais notre condition, oui, notre condition, mais parce que le péché fait partie de ce que nous sommes tous. L'universalité de la mort n'est pas le signe qu'elle est naturelle, mais l'universalité de la mort est le signe de l'universalité du péché. C'est ce que dit Paul dans Romains 5, verset 12. « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Ainsi, la mort atteint tous les hommes, car tous ont péché. » Et c'est pourquoi Jésus est notre espérance d'abord, en ce qu'il a pris sur lui le salaire du péché de tous ceux qui croiraient en lui. Il est devenu le chef d'une nouvelle humanité, un nouvel Adam. Et en Romains 5, Paul met en contraste ces deux chefs d'humanité, Adam et Christ, en soulignant vraiment que ce que Christ apporte est infiniment plus grand. Sa grâce est sans proportion avec l'offense. Mais en même temps, il n'était pas possible de simplement repartir à zéro pour faire une nouvelle humanité comme si rien ne s'était passé. Paul souligne que Jésus est devenu ce nouvel Adam après de nombreuses fautes. Il y a eu de nombreuses fautes dans toute l'histoire des hommes. Et la grâce qu'offre Jésus doit surmonter ce passif. Est-ce que ce que Jésus a fait en portant nos péchés en son corps sous le bois? Sans cela, sans nous approprier cela, nous restons sous le jugement de Dieu, morts par nos fautes et par nos péchés, nous dit Éphésiens 2, verset 1, méritant la colère de Dieu, cette juste attitude, ce juste rejet de Dieu par rapport au mal, Éphésiens 2, verset 3, voué à la perdition dont le Fils veut nous faire échapper, et à la ruine éternelle, nous dit Paul dans 2 Thessaloniciens 1, verset 9, privé de la gloire de Dieu. Autrement dit, sans cette œuvre de Christ, une voie totalement sans espérance. Et ça nous rappelle que revivre après la mort n'est pas en soi une espérance. Revivre en soi après la mort, revivre par la mort n'est pas simplement en soi une espérance. Tout dépend de l'aboutissement de cette vie après la mort. La Bible nous dit que certains ressusciteront, mais pour être privés de la gloire de Dieu et pour recevoir en leur corps le jugement que mérite leur faute et un jugement qui scellera toute leur éternité. Ça, ce n'est pas une espérance. C'est une condamnation. La Bible l'appelle d'ailleurs la seconde mort. La seconde mort. Ce qui veut dire que certains ressusciteront pour se voir signifier une deuxième mort. Et une mort, cette fois-ci, éternelle, définitive. L'étang de feu, nous dit l'Apocalypse, c'est cela la seconde mort. On ne parle d'espérance que s'il y a vie éternelle. Hein ? Or, c'est ce qui a été rendu possible par l'œuvre de Jésus, par sa mort d'abord. Je rappelle Jean 3, verset 16, « Il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. » Ça, c'est la menace. La non-espérance de ceux qui ressusciteront pour la seconde mort, mais que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. C'est donc par la mort de Jésus d'abord qu'il y a une espérance. Mais deuxièmement, c'est aussi par le triomphe de Jésus sur la mort que nous avons une espérance. Jésus est notre espérance par sa victoire sur la mort. Et cette victoire sur la mort, par sa résurrection, nous assure que non seulement Dieu est réconcilié avec nous, mais que cette réconciliation s'ouvre sur tout un avenir où ni la mort, ni la condamnation ne pourront plus avoir le moindre mot. C'est cela l'espérance qui nous est donnée par la victoire de Jésus sur la mort. Paul annonce cela avec force en Romains chapitre 5. Au verset 8, Paul nous rappelle que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc ça, c'est la mort et les effets de la mort. Mais il continue au verset 10, et là il parle des effets de la mort de Jésus pour dire les effets de sa résurrection. Il dit, si alors que nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés avec lui, nous serons sauvés par sa vie. Vous voyez que là on passe du fruit de la mort au fruit de la vie de Jésus-Christ. Il y a deux contrastes. Un contraste d'abord entre être ennemi avec Dieu et être réconcilié. Et on passe de l'un à l'autre par la mort du Christ. C'est par la mort que l'on passe du statut d'ennemi à celui d'être réconcilié, si on accepte bien sûr ce salut par la foi. Mais ensuite, un autre contraste prend le relais. C'est que c'est ce qu'apporte la mort de Jésus par rapport à ce qu'apporte sa vie. Et Paul dit qu'une fois que ce problème de notre inimitié avec Dieu est résolu, c'est désormais, on va être sauvé par la vie du Christ. C'est-à-dire que toutes les potentialités du Christ ressuscité, du Christ vivant, s'ouvrent désormais pour nous. C'est cela, être sauvé par la vie du Christ. Tout ce qu'apporte la vie, tout ce qu'apporte la résurrection du Christ, cela nous est donné. Et c'est ainsi que Paul fonde et construit toute sa vision de l'espérance chrétienne. Toutes les potentialités de la vie du Christ ressuscité s'ouvrent pour ceux qui appartiennent au Christ. Et c'est ainsi qu'en suivant le Christ dans les étapes de son triomphe, on découvre les ressources d'espérance qui sont les nôtres. Donc la mort, oui, qui nous réconcilie, et ensuite le plein salut qui nous est donné par la vie du Seigneur Jésus et toutes les potentialités de sa résurrection. Alors c'est de voir ce que représente cette vie qui nous est donnée en Jésus-Christ. C'est d'abord justement la résurrection, et la résurrection de manière très particulière. La résurrection du Christ, nous dit l'apôtre Paul, n'est pas simplement un acte qui concerne le Christ dans l'histoire. C'est d'abord cela. Mais la résurrection du Christ annonce et garantit la nôtre. C'est ce que Paul affirme dans 1 Corinthiens 15, dans le texte que nous avons lu au verset 20, avec l'image des prémices. D'abord, il a dit, oui, le Christ est ressuscité, c'est attesté par tous les témoins. Et il continue verset 20 en disant, mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts et il est les prémices de ceux qui sont décédés. Qu'est-ce que c'est que les prémices? Les prémices, ce sont les premiers fruits qui annoncent tout le reste d'une récolte. Hein, les prémices, c'est quand on récolte les premiers fruits qui annoncent tout le reste de ce qui va venir. Alors c'est intéressant, cette idée-là. Ils annoncent vraiment la récolte. Ils annoncent vraiment la récolte. On a les fruits entre les mains. On a les fruits entre les mains. Et donc la récolte n'est plus un simple espoir, elle est là. On en a les premiers fruits. Et Jésus est donc les prémices de ceux qui sont morts par le fait que déjà en sa résurrection, on a les premiers fruits de l'espérance bien présents là. Les prémices disent autre chose. Ils disent aussi la qualité de la récolte qui va venir de la suite. On peut les goûter, on peut les tester, les prémices. Et parce qu'on a goûté et testé les prémices, on sait ce qui va suivre. On le voit déjà. Vous savez, là, pour le vin, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Les viticulteurs, ils savent, d'après les premiers grappes de raisin, ils savent ce que va donner la suite, ce que peut donner la suite. Si les prémices sont bons, le reste sera bon. Et Jésus constitue aussi de cette deuxième façon les prémices de notre espérance. Non seulement il annonce ce qui va venir en disant « c'est déjà là, c'est le début de tout ça », mais en plus il annonce la qualité de ce qui va venir. Ce qu'on voit en lui annonce ce qui va suivre du point de vue qualitatif. Il assure une belle et riche moisson. Il annonce les caractéristiques et les qualités de cette moisson. Et c'est très intéressant de voir la façon dont Paul établit un lien très fort, un lien très organique entre les prémices et le reste, c'est-à-dire ceux qui appartiennent au Christ. Et ce lien, c'est le même que celui qui unissait Adam au reste de l'humanité. Entre Adam et nous, c'est une même humanité. Et de même, entre Jésus et nous, c'est la même nouvelle humanité. Et c'est ce que développe Paul dans tout ce texte d'1 Corinthiens 15. Nous avons porté l'image d'Adam, le terrestre. De même, nous allons porter l'image de Jésus, le céleste. Alors quand on dit le céleste, ça veut dire celui qui est venu du ciel. Jésus est notre espérance dans ce sens très intime qu'est annoncé en lui-même ce que nous serons parce qu'il est le départ et le fondement de la nouvelle humanité. Et ce départ de la nouvelle humanité s'inscrit dans un premier temps dans l'ancienne. On ne voit pas encore toute la nouveauté de ce que Jésus va faire. Ça s'inscrit dans l'ancienne, c'est pourquoi on ne parle que de prémices, mais en même temps, il y a là comme une manifestation de la nouvelle réalité au cœur de l'ancienne, parce que les prémices sont là, avec la résurrection de Jésus. Certains parlent d'une irruption du monde nouveau dans notre réalité d'aujourd'hui par la résurrection de Jésus. Très concrètement, ça signifie que pour nous, pour savoir ce qu'est notre espérance face à la mort, nous pouvons regarder à ce que Jésus a été lorsqu'il a triomphé, lui, de la mort. Nous porterons son image. Nous serons vivants au-delà de la mort, de la façon dont il a été lui-même vivant en vainquant la mort. Paul écrit que Jésus, nous l'avons lu, a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Littéralement, il a mis en lumière ce qu'est l'immortalité par l'Évangile. Il a révélé ce que sont la vie, ce que sont l'immortalité qui constituent notre espérance. Et il a montré aussi combien c'est beau, combien c'est lumineux. Il l'a mis en lumière. La résurrection donc comme prémisse. Je crois que c'est très très important de saisir cette notion-là avec toute sa richesse. Ce n'est pas que chronologique, c'est aussi qualitatif. Quelle est-elle cette immortalité que Jésus a mise en évidence par sa résurrection? Ce qu'il faut souligner très fort, c'est que l'immortalité que Jésus a mise en évidence par la résurrection n'est pas l'immortalité de l'âme, comme certains le disaient, comme les Grecs le disaient, comme beaucoup le pensent, qu'après la mort, l'âme reste immortelle. C'est pas cela ce que Jésus a manifesté. Ce que Jésus a manifesté, c'est une immortalité qui va plus loin. Par-delà la rupture de la mort, Jésus a manifesté l'immortalité d'un corps pleinement animé de l'intérieur par une personne vivante. Jésus ressuscité n'est pas un pur esprit. Mais c'est une personne vivante avec un corps qui a pu se manifester très clairement. Jésus a pu montrer les marques des clous de ses mains, de ses pieds. Jésus ressuscité a été reconnaissable, d'une certaine façon. Les disciples se sont réjouis en voyant le Seigneur lorsqu'il leur est apparu. Et ils ont bien vu que c'était lui, finalement. Alors, ce qu'on peut noter quand même, c'est que parfois, ils ont eu du mal à le reconnaître. Mais finalement, très réellement, c'était bien lui. Et ça nous dit, je pense, quelque chose sur ce qu'est la continuité. C'est pas dit que la continuité entre avant et après veut dire absolument identité physique, surtout. Mais simplement, le fait qu'il y a une continuité telle que, même s'il y a des différences entre le corps d'avant et le corps d'après, au bout du compte, on reconnaît, oui, c'est bien lui, oui, c'est bien elle. C'est ça ce qui s'est passé pour le Christ. Indiscutablement, c'était lui. Mais lui avec son corps. L'identité demeure dans la continuité, même si certains traits peut-être diffèrent. Et surtout, Jésus est revenu à la vie avec un corps adapté à une vie de type terrestre. Jésus a marché des kilomètres avec les pères d'Emmaüs, ils ont marché ensemble. Hein. Un esprit, ça marche pas à côté des hommes. Hein. Jésus a parlé avec sa bouche. Jésus a pris du pain, l'a donné, ses mains se sont mises en œuvre. Il avait un vrai corps pour faire tout ça. Un corps avec les réalités très terrestres. L'apôtre Jean dit aussi que de Jésus, nous avons contemplé de nos yeux, nous avons touché de nos mains le Seigneur Jésus. Et ça s'applique aussi certainement à la période après la résurrection. Mais le témoignage le plus fort à la pleine humanité du Christ ressuscité est donné par Pierre. Pierre, quand il parle en tant que témoin du Christ ressuscité, quand il parle, il raconte à Corneille toute la vie de Jésus, il raconte comment Jésus s'est manifesté par des miracles, etc. Et il parle de sa résurrection et dit ensuite « Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et lui a donné de se manifester non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. » À nous, écoutez bien, qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Ça, c'est le témoignage de Pierre qui vraiment a été avec le Seigneur après sa résurrection et dit, nous, on a mangé et bu avec Jésus après sa résurrection. Cela, ça dit que le Christ ressuscité était vraiment dans un vrai corps. Dans un vrai corps, une existence corporelle authentique. Et en même temps, ce corps semble pouvoir faire bien plus que nous avec notre corps. Vous savez que Jésus a pu rentrer dans la pièce où étaient les disciples alors que tout était fermé. Et il s'est trouvé là, au milieu d'eux. Et ça nous fait penser parfois que Jésus était peut-être une sorte de fantôme là qui peut traverser les murs et les fenêtres et tout ce qu'on veut. Bon, c'est un vrai corps que Jésus a eu, mais avec des capacités plus larges que ce qu'est notre corps à nous. Mais un vrai corps, mangé et bu avec lui, nous dit l'apôtre Pierre. Certains pensent que l'espérance chrétienne, c'est qu'après notre mort, notre âme sera pour toujours avec Jésus dans le ciel. C'est pas ça du tout que nous atteste le Christ ressuscité. Le Christ ressuscité, l'image que donne le Christ ressuscité, c'est l'image d'une personne qui a un vrai corps, un corps actif, un corps en prise avec un monde terrestre, un corps qui interagit dans ce monde terrestre, un corps capable de faire autant et plus de choses que nous faisons avec notre corps, mais c'est un corps qui entre corporellement en action avec le monde. Et c'est à la lumière de cela qu'il nous faut penser notre espérance, par-delà la mort, notre espérance dans la vie et dans la mort. Et maintenant, il faut parler un petit peu du ciel et de toutes ces choses-là, en relation avec notre espérance. Mais vous me direz quand même, Paul nous dit que notre cité, elle est dans les cieux. Hein, c'est Colossiens 3, verset 20. Philippiens 3, verset 20. Qu'il nous faut chercher des choses d'en haut, où notre vie est cachée avec le Christ. L'apôtre Pierre nous dit que notre héritage nous est réservé dans les cieux. Et Jésus nous a dit qu'il était allé nous préparer une place dans le ciel, dans la maison du Père, où il y a plusieurs demeures. Est-ce que notre espérance à notre mort n'est pas d'être pour l'éternité avec Jésus dans le ciel? Pour bien saisir les perspectives, je vous propose la clé de compréhension suivante. C'est tout simple. Notre espérance, c'est Jésus. Notre espérance, c'est Jésus. Or, Jésus est actuellement dans le ciel. Il est actuellement dans le ciel. Dans la présence, dans la gloire du ciel. C'est du ciel qu'il règne pour assurer l'accomplissement du projet de Dieu jusqu'à ce que tous ses ennemis soient mis sous ses pieds. Le dernier, ce sera la mort. Nous l'avons lu, 1 Corinthiens 15, versets 25-26. Et donc, à cause de cette situation actuelle du Christ exalté, oui, notre héritage est dans les cieux, bien sûr, puisque notre héritage est en Christ et que Christ est au ciel. Oui, notre héritage est dans les cieux, parce que le Christ est au ciel actuellement. Et parce qu'il est actuellement dans les cieux, être avec le Christ après notre mort, ce sera être avec lui dans les cieux et dans la maison du Père. Mais cela, ce n'est pas la fin de l'histoire. Ça, ce n'est pas la fin de l'histoire. Parce qu'il y aura une autre étape. Et cette autre étape, ce sera le retour en gloire de Jésus. Jésus qui aujourd'hui est dans le ciel, va quitter le ciel. Va quitter le ciel pour revenir sur la terre, revenir en gloire. Il viendra juger le monde avec droiture. Il viendra faire toutes choses nouvelles, de nouveaux cieux, une nouvelle terre, où la justice habitera. Et le mouvement de Jésus revient vers la terre. C'est là qu'il vient établir pleinement le tabernacle de Dieu, le vrai tabernacle de Dieu, bien plus grand que celui-ci ici, là, qu'on est nous ici, bien plus large, bien plus beau, la présence même du Seigneur. C'est là qu'il manifestera tout l'éclat de la gloire de Dieu parmi les hommes, sur une terre complètement renouvelée. Alors ça, on en parlera lors du prochain Institut biblique. Mais ça dit le mouvement. Jésus est au ciel aujourd'hui, il revient en gloire sur la terre pour manifester vraiment la pleine présence de Dieu. Il faut bien noter donc qu'à cause de ce mouvement-là, le ciel n'est pas notre destinée éternelle. Ce n'est pas notre destination éternelle, le ciel. C'est là que se trouve le Christ aujourd'hui, et c'est du ciel que nous l'attendons. Et nous l'attendons sur la terre et pour la terre. Dimanche dernier, nous lisions ce texte où la lettre de Jean à l'église de Pergame parle de la Nouvelle Jérusalem et dit « La Nouvelle Jérusalem, elle descend du ciel, elle descend d'auprès de Dieu, elle descend sur la terre. » C'est le même mouvement que Jésus. Elle est pour l'instant la Nouvelle Jérusalem au ciel, mais le ciel est le lieu où elle est en train de se préparer, de se constituer pour descendre sur la terre lorsque Jésus reviendra. Et il nous faut bien saisir ce mouvement pour dire l'espérance chrétienne. Tout est gardé, préparé pour l'instant dans les cieux, mais c'est gardé et préparé pour la nouvelle terre où Jésus viendra apporter toute la gloire du ciel. Alors je propose juste de lire un texte de Paul qui illustre bien ce mouvement. C'est dans Philippiens 3, versets 20 et 21. Philippiens 3, versets 20 et 21. Paul dit, « Nous, notre cité est dans les cieux. » Notre cité est dans les cieux, c'est la Nouvelle Jérusalem, est dans les cieux. « D'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose. » Notre cité est dans les cieux. Oui, c'est la situation d'aujourd'hui. Mais vous remarquerez que Paul ne dit pas « Notre cité est dans les cieux où nous irons avec le Seigneur Jésus-Christ ». Il dit « Notre cité est dans les cieux d'où nous l'attendons ». Nous attendons qu'il quitte les cieux pour venir vers nous. C'est ça ce que dit Paul. Et lorsqu'il viendra, il viendra pour transformer notre corps et le rendre semblable à son corps de gloire. Jésus remonté au ciel a gardé son corps glorifié, il reviendra corporellement sur la terre pour y régner éternellement et nous donnera à ce moment-là un corps transformé à l'image de son corps à lui, parfaitement adapté à la nouvelle réalité de cette nouvelle terre. Voilà, me semble-t-il, le mouvement de l'espérance chrétienne. Et c'est bien de fixer les choses en relation vraiment avec Jésus lui-même, notre espérance. Ça aide vraiment à fixer les choses. Alors maintenant, il nous faut tenter encore, pour autant qu'on le peut, de dire quelques mots sur ce nouveau corps qui nous est promis, à l'image du corps du Christ ressuscité. Nous avons déjà mentionné le témoignage des évangiles et des témoins accrédités par que sont les apôtres, pour dire que c'est un vrai corps. L'apôtre Paul, lui, a vu le Christ glorifié. Il n'a pas vu le Christ sur terre encore pendant les 40 jours où il était après sa résurrection. Il a vu le Christ glorifié. Et l'apôtre Paul réfléchit à ce qu'est ce corps nouveau et en comparant en quelque sorte le corps qui nous est donné en Adam au corps qui nous sera donné en Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il fait à partir du verset 42 d'1 Corinthiens 15, dans le texte que nous avons lu. Et Paul emploie ici l'image de la semence qui donne son produit. Alors c'est intéressant cette image de la semence parce que ça intègre la réalité de la mort. Le corps va à la terre, le corps va à la terre et la semence aussi, elle va à la terre et c'est suite à cette mise en terre, retrouve la poussière, que quelque chose va pouvoir renaître. Mais la semence dit que si l'on va à la terre, ce n'est pas pour y rester, ou ce n'est pas pour s'y dissoudre, mais c'est pour renaître à autre chose. Et c'est ça ce que donne l'image de la semence. L'image de la semence est riche, elle dit la continuité. Il y a un lien entre chaque semence et ce qui est produit. Une semence de ceci donne vraiment toujours ce genre de fruit. Mais l'image de la semence dit aussi l'abondance de la vie. Une semence qui est déposée en terre, c'est souvent peu de choses. Ça contient un potentiel de vie, mais qui dépasse absolument la semence elle-même. De la graine à la fleur, de la graine à la plante ou de la graine à l'arbre, il y a un écart immense. Et c'est ce que Paul essaye de nous dire à propos du corps de résurrection qui lui aussi est semé d'une certaine façon et que l'on retrouve avec beaucoup plus de richesse. Je relis 1 Corinthiens 15, 42, 45. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé plein de faiblesse, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam, lui, est devenu un esprit vivifiant. Ce texte nous dit tous les plus, tous les dépassements du corps de résurrection par rapport à celui qui est le nôtre aujourd'hui. Et c'est sa ligne générale et c'est quand même bon de l'entendre. Je note 2-3 points particuliers. Le premier dépassement, la première ligne de dépassement, c'est que le corps ressuscité recevra l'incorruptibilité. Semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Le nouveau corps reçu en Jésus-Christ ne sera plus soumis aux détériorations et au déclin que connaît le nôtre, reçu en Adam, et qui va vers la mort. Paul nous dit plus loin que notre corps nouveau revêtira l'incorruptibilité, revêtira même l'immortalité, et que c'est cela qui sera la pleine victoire sur la mort. Pas simplement le fait de la résurrection, c'est pas le fait qu'on ressuscite, mais le fait qu'en plus, il y aura cette qualité supérieure du corps de résurrection qui fait que ce corps aura revêtu l'incorruptibilité, l'immortalité. La mort sera ainsi engloutie dans la victoire. C'est ce que dit au verset 54, « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. » Donc un plus qualitatif, un plus en qualité, l'incorruptibilité. Deuxième ligne de dépassement, c'est la gloire et la force. Paul contraste ce qui est semé méprisable et ce qui ressuscite glorieux. Ce qui est semé dans la faiblesse et ce qui ressuscite plein de force. La mort dit la vulnérabilité de notre corps. Certains meurent dans un état physique tellement dégradé. Tout cela sera totalement dépassé et définitivement dépassé par dans le corps de la résurrection donnée en Jésus. Et ce corps qui peut-être est parti dans la faiblesse va ressusciter plein de force. Si vous avez le souvenir à un parent, quelqu'un de votre famille qui est parti tout petit, tout chétif dans la mort, mais dites-vous que c'est pas cela qui va ressortir après, plein de force, plein de gloire, nous dit l'apôtre Paul. La troisième ligne de ce dépassement est un peu plus délicate à saisir. Elle concerne l'animation de ce corps nouveau. Ce qui fait l'animation de ce corps nouveau. Alors, qu'est-ce qui fait une personne humaine ? Ce qui fait une personne humaine, c'est un corps qui est animé de l'intérieur par un noyau vital personnel, intelligent, volontaire, capable de décision libre. C'est ça ce qui fait la personne humaine, la réalité humaine. Il y a le corps, oui, mais un corps animé par un noyau vital avec toutes sortes de capacités. Et si vous avez vu quelqu'un qui est décédé, vous voyez le corps, mais il n'y a plus cette animation, c'est tellement saisissant. Et c'est une différence qualitative immense. Paul emploie au verset 44 deux expressions pour dire que sur ce plan aussi, il y aura une différence. Alors là, les mots sont un peu délicats. Paul dit « semé corps naturel, on ressuscite corps spirituel ». Et dit, s'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam, lui, est devenu un esprit vivifiant. Paul ici joue avec deux mots. Un premier mot qui est traduit ici par soit naturel, corps naturel, où Adam devint un être vivant. Et c'est le mot psyché qui a donné psychisme, etc., mais qui déborde largement dans le langage biblique l'idée de psychisme. Quand il est question d'un corps ici qui est semé corps naturel, littéralement c'est corps psychique, c'est corps, on va dire, animé par une âme humaine sur le modèle d'Adam. Okay ? L'homme devint une âme vivante, un être vivant. Un corps naturel, c'est un corps qui est animé par le genre de vie, le genre de noyau intérieur vital qui était celui d'Adam. C'est ce que Paul dit lorsqu'il parle d'un corps naturel, corps psychique, typique de la vie en Adam. Ce que nous connaissons aujourd'hui, animé comme nous sommes animés aujourd'hui. Et puis, il y a un autre mot qui est le mot spirituel. Et si vous voulez, en grec, de nouveau, il y a le mot âme, psyché, pour décrire l'être intérieur. Il y a l'âme et l'esprit. Quand on fait la distinction entre âme et esprit, ce n'est pas pour dire qu'il y a deux parties différentes en nous. Mais l'âme, on va dire, c'est plus l'homme intérieur sous l'aspect de ce qu'il ressent, de ce qu'il ressent, on va dire, oui. Et l'homme comme esprit, c'est beaucoup plus l'être intérieur avec toute sa capacité de projection, d'aller en avant, de se projeter en avant, de créer, d'aller vers, vous voyez. Ça, c'est la différence entre âme et esprit dans les nuances. Et c'est cette différence-là que Paul applique aussi à la différence entre le principe d'animation que nous avons en Adam et celui que nous avons en Christ. Le principe d'animation du corps qui est le nôtre en Adam, c'est cette vie naturelle qui est la nôtre, qu'on connaît bien. Une âme vivante, une âme qui fait vivre tout ce qui est en nous et qui fait que, voilà, je vous parle maintenant, et tout ce qu'on vit les uns les autres. Mais, nous dit l'apôtre Paul, si on est semé corps avec ce principe-là d'animation, on va ressusciter corps spirituel, c'est-à-dire corps animé autrement. Et animé par une puissance de vie qui est vraiment une puissance de vie de l'ordre de l'esprit. Et c'est ce qu'il continue en contrastant Adam et Christ, c'est pourquoi il écrit « Le premier homme Adam devint un être vivant, une âme vivante, mais le dernier Adam, lui, est devenu un esprit vivifiant. Oui, c'est intéressant. Paul ne dit pas le Christ est devenu un esprit vivant, hein, mais un esprit vivifiant. Et pour dire que le principe d'animation de la vie dans le nouveau corps de résurrection qui nous sera donné en Jésus, c'est un principe d'animation tellement fort d'une vitalité nouvelle, de cette vitalité que le Christ manifeste en ayant triomphé sur la mort et en pouvant faire toutes choses nouvelles. Donc un corps spirituel, hein, ce que Paul appelle ici un corps spirituel, c'est pas un corps qui flotte quelque part dans les nuages, c'est un corps qui est animé par le Christ, le principe de vie qui est celui du Christ, qui a été manifesté par le Christ. Sur quoi Paul fait la différence ici, c'est le principe d'animation de ce corps qui était celui en Adam et le principe d'animation du corps qui est né en Jésus. Et il dit c'est infiniment au-delà ce que le Christ nous apporte, un esprit vivifiant. Et certainement, c'est aussi pour ça que le corps de résurrection révèle l'incorruptibilité parce qu'il est animé par un esprit vivifiant, qui est l'esprit même manifesté par le Christ qui a triomphé de la mort et qui est porteur de toute la vie. Et c'est donc ce contraste, ce contraste porte complètement toute la pensée de Paul. Et c'est pour ça que tout cela oriente maintenant vers celui qui détermine notre humanité. La première humanité était à l'image d'Adam. La nouvelle humanité sera à l'image du Christ. Et c'est vraiment la conclusion de l'apôtre Paul. Au verset 49, il dit « De même que nous avons porté l'image du terrestre, de même nous porterons aussi celle du céleste. » Alors, le terrestre, c'est quoi? C'est qui? Nous avons porté l'image du terrestre. Le terrestre, c'est Adam. Et de même, nous porterons l'image du céleste. Le céleste, c'est-à-dire celui qui est venu des cieux pour manifester toute sa puissance de vie, le céleste, c'est le Christ. Vous voyez, c'est ainsi que Paul contraste les deux. Le Christ venu du ciel pour restaurer et vivifier notre humanité. Donc la ligne est vraiment claire. C'est à la lumière de Jésus ressuscité qu'il nous faut considérer notre espérance face à la mort. Il est les prémices de ceux qui sont morts, pas juste le premier, mais aussi le modèle, l'annonciateur de toute la réalité nouvelle qui se situera dans la continuité avec l'ancien, mais avec une vraie rupture, mais une rupture pour le plus, une rupture pour ce qui est le plus glorieux. Voilà donc, si vous voulez, me semble-t-il, les perspectives que Paul nous donne. Alors, on ne peut pas spéculer beaucoup plus sur ce qu'est ce corps spirituel, etc. Mais je crois qu'on a une vision très claire de nous dire, c'est vraiment autour de ce que Jésus a manifesté que nous pouvons fonder notre espérance. Et c'est vraiment dans la conscience de tout ce plus que le Seigneur peut apporter en tant que nouvel Adam, nous porterons son image à lui, qui a vaincu la mort et qui est le prince de la vie. Nous porterons son image à lui. Et c'est ce qui permet d'aller vers de conceptualiser un petit peu, de nous représenter ce que peut être cette espérance. Alors il me faut dire un petit mot, mais je le ferai assez rapidement. J'essaierai de survoler les choses. Nous parlons de la mort. Nous disons que l'aboutissement, c'est la résurrection, dans les termes dont je vous en ai parlé. Mais il y a quand même un moment entre les deux. Il y a le moment où on meurt, où le corps est semé, où il retourne à la terre, et il y a le moment où il ressuscite, avec toutes ses potentialités magnifiques. Il y a là un véritable entre-deux, entre la mort et la résurrection. La résurrection n'interviendra qu'au moment du retour de Jésus-Christ. C'est ce que Paul enseigne très clairement. C'est lorsque le Seigneur Jésus descendra du ciel au son de la trompette de Dieu qu'aura lieu aussi la résurrection d'entre les morts. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Et cela s'accompagnera pour ceux qui sont restés vivants de leur transformation directement dans l'image du corps nouveau que le Christ donne, sans passer par la mort. Ce qu'il faut dire quand même, en tout cas, c'est que il ne faut pas imaginer qu'on va ressusciter, on va dire, chacun les uns après les autres, disons, de manière un petit peu différente. Hein. Ce n'est pas chacun qui, juste après sa mort, ressuscite tout de suite. Hein. Certains pensent un petit peu comme ça. La résurrection, c'est juste après sa mort. Chacun ressuscite dès qu'il est mort, et puis voilà. Non, ce n'est pas comme ça. L'apôtre Paul dit résurrection générale au moment où Jésus approche, où Jésus revient. Et donc, ce qui pose la question quand même de dire, mais qu'est-ce qui passe entre deux? Que peut-on dire juste de l'entre-deux? Et ça fait aussi partie de notre espérance face à la mort. Alors, rapidement, je signe deux, trois choses. La Bible parle assez peu de ce qu'on appelle l'état intermédiaire, cet état d'entre-deux. Il n'y a pas de développement systématique, il n'y a pas de description hyper précise de cela. Et on peut dire que cette discrétion tranche avec la place qu'occupe ce sujet dans beaucoup de pratiques et d'autres religions. Hein, qu'on pense à toutes les religions ou à l'importance du monde des morts. Hein, c'est tellement immense parfois. Très très peu, très grande discrétion dans la Bible là-dessus. Dans l'Ancien Testament, on a assez peu de lumière sur l'après-mort immédiat. Et en fait, dans l'Ancien Testament, on en parle souvent de termes assez négatifs. On dit, ouais, ceux qui meurent sont comme des ombres, c'est pas vraiment ça la vraie vie. Est-ce que ce sont les hommes, les morts qui vont te louer, Seigneur? Et en fait, parler comme ça, c'est une façon dans l'Ancien Testament de dire, en fait, il faut valoriser la vie, la vie qui nous est donnée là. Hein. Quand on dit, est-ce que les morts vont te louer, c'est pour dire, mais Seigneur, je veux rester en vie parce que moi, je veux te louer avec les potentialités de vie qui sont les miennes là maintenant. Donc l'Ancien Testament a assez peu de lumière sur l'après-mort et il valorise beaucoup l'affirmation de vie. Le Nouveau Testament nous oriente vers la résurrection de Jésus et tient à maintenir en tout cas cette résurrection de Jésus. Et c'est plutôt vers cela que l'on parle, avec quelques éléments qui nous sont donnés quand même sur la vie après, immédiatement après la mort. Alors juste rapidement, lorsqu'on essaie de se faire des représentations de ce que cela peut être, je crois qu'il y a trois grandes conceptions qui sont proposées. Il y en a une première conception dit que l'âme ou l'esprit subsiste après la mort et jouit d'un bonheur conscient dans la présence du Christ dans l'attente de la résurrection. Deuxième conception dit que l'âme après la mort est comme un sommeil. Elle subsiste, mais il n'y a aucune conscience, aucune durée, aucun sens de durée, aucun sens de la présence de Dieu, comme un sommeil. Et un sommeil sans rien, sans rêve, sans quoi que ce soit. Et le premier état de conscience immédiatement après la mort, ce sera la résurrection. Hein, donc il ne faut pas penser à une conscience entre les deux. C'est comme quand vous réveillez, vous couchez, vous endormez, le moment suivant pour vous, c'est le moment où vous vous réveillez. Hein? Bon. Troisième conception, certains disent, il ne subsiste absolument rien après la mort. Le corps et l'âme sont une unité telle que lorsque la mort intervient, il n'y a plus rien qui reste. Et la résurrection est un recommencement nouveau de Dieu. Une recréation, si vous voulez. Dieu se sert de la mémoire de ce qu'on a été pour recréer, mais il n'y a pas de continuité. Ça, c'est juste quelques éléments qui sont les trois grandes façons dont on considère ces choses. Alors en face de cela, considérons quelques textes clés. Je vais faire vite, je me rends compte que je suis déjà en retard. C'est intéressant de voir quelques notes de l'enseignement de Jésus. Jésus laisse à plusieurs reprises apparaître sa conception de l'immédiat après-mort. Dans Matthieu 10, verset 28, Jésus dit « Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Jésus ici veut encourager les disciples en disant, vous savez, on pourra porter atteinte à votre vie physique, tuer votre corps, mais ceux qui peuvent tuer votre corps ne peuvent pas tuer votre âme. C'est ce qu'il dit. Hein? Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Et ça, c'est une façon de dire que la mort physique n'implique pas celle de l'âme dans la perspective de Jésus. Il y a aussi cette parabole de l'homme riche et de Lazare, hein, où on voit qu'après la mort du riche et de Lazare, l'un et l'autre sont dans le séjour des morts. Et Jésus, dans cette parabole, dit que l'un et l'autre ont conscience de ce qu'ils vivent, le riche, euh, le riche qui avait tout profité de tout se retrouve vraiment dans de grandes souffrances. Et le pauvre Lazare se retrouve recueilli dans le sein d'Abraham. Cette parabole a pour but de nous dire la justice de Dieu, de nous inviter aussi à écouter vraiment Dieu et à vivre selon lui tant qu'on est vivant. Mais cette parabole de Jésus, me semble-t-il, enseigne aussi quelque chose de ce que Jésus concevait. Et ce qui veut dire une existence consciente quand même, me semble-t-il, après la mort. C'est ce que véhicule en tout cas cette parabole-là. Une autre parole, Jésus, à un moment donné, est en discussion avec les Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection. Et il l'interroge sur savoir quand quelqu'un ressuscite, s'il a eu plusieurs femmes, de qui est-ce qu'il sera la femme, le mari à la résurrection, etc. Pour eux, c'était une façon de dire c'est absurde cette histoire de résurrection. Et Jésus dit, mais sachez que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et face donc aux Sadducéens, Jésus rappelle le principe de la résurrection, que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et il ajoute son propre commentaire. Et dit, n'avez-vous pas lu que Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Jésus dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts. Et il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En gros, ce qu'elle veut dire, c'est qu'il est le Dieu vivant pour Abraham, pour Isaac et pour Jacob, qui sont aussi vivants pour lui. C'est ça ce que Jésus dit aux pharisiens. Et il dit, tous vivent pour lui. Abraham, Isaac, Jacob, ils vivent pour lui. Et donc Jésus dit aussi là quelque chose de très fort concernant ceux qui sont partis. Et puis il y a aussi le brigand sur la croix, à qui lorsque le brigand lui dit « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne », le Seigneur dit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Certainement que le brigand pensait « Oui, souviens-toi quand tu seras dans ton règne, le règne de Dieu qui doit venir vraiment très très longtemps ». Et Jésus lui dit, mais aujourd'hui même, tu seras dans le paradis. Et le mot paradis est un mot rare, mais qui dit ici la présence de Dieu, de jouir de la présence de Dieu, les lieux célestes aussi, et la communion avec Dieu libéré du péché. Et cette parole, me semble-t-il, de Jésus, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, exclut l'idée d'une sorte de sommeil de l'âme où on n'aurait aucune conscience. Tu seras aujourd'hui avec moi, dans le paradis. Pourquoi dire aujourd'hui s'il s'agissait d'une situation dont le brigand serait totalement inconscient? Et à quoi bon souligner la communion? Tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis s'il s'agissait simplement de la présence côte à côte de deux âmes inconscientes. C'est pas du tout ça que dit Jésus. Tu seras avec moi. Communion. Voilà ce que dit Jésus au brigand. Deux textes concernant Paul. Paul a médité plusieurs fois face à la mort. Il s'est retrouvé dans la perspective d'une mort assez proche, immédiate. Et il a des paroles assez fortes là-dessus. Philippiens chapitre 1, versets 21 à 24. Philippiens 1, versets 21 à 24. Pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais est-ce utile pour mon œuvre que je vive dans la chair? Que dois-je préférer? Je ne sais. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Vous voyez là ce débat de Paul? Ce débat de Paul qui dit, voilà, j'aimerais partir. J'ai l'impression, il dit pour moi partir, je sais que Christ est la vie, Christ est ma vie vraiment, et la mort m'est un gain. Pour moi, c'est préférable de mourir parce que je serai vraiment avec le Christ. Vous voyez dans quel sens que Paul dit Christ est ma vie, c'est d'avoir toute son assurance pour la vie éternelle qui est là, mais en même temps, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ. Et pour Paul, c'est très clair que partir, c'est vraiment être avec le Christ. Et il fait un lien entre le désir de m'en aller pour être avec. Donc c'est vraiment le moment de la mort qui est le moment qui permettra d'être avec le Christ vraiment dans les lieux célestes. Et pour Paul, de manière très claire, pour lui, le fait de mourir implique de pouvoir être dans la communion, la pleine communion du Christ. C'est ce qu'il dit aussi dans 2 Corinthiens 5, verset 8, il dit « Nous préférons quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Demeurer auprès du Seigneur. Affirmation forte, me semble-t-il aussi, pour dire qu'après la mort, immédiatement après la mort, on entre dans la présence vraiment du Seigneur. Et c'est ce que confirment des textes de l'Apocalypse qui nous donnent une vision de l'état intermédiaire, de ce qui se passe dans le ciel en ce moment. Et on va peut-être juste lire un texte dans Apocalypse 6, versets 9 à 11. Voilà ce qu'il est dit, « J'ouvris le cinquième sceau et je vis là, sous l'autel, les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage rendu. Et crièrent d'une voix forte, « Jusque à quand, Maître Saint et Véritable, tardes-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos, quelque temps encore, jusqu'à ce que soit au complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. Ici, on a une vision qui se passe pendant l'état intermédiaire, puisqu'il y a encore des gens qui sont sur la terre, qui sont encore en train, même peut-être, d'être persécutés, et ceux qui sont déjà auprès du Seigneur, ce sont eux qui sont décrits. Et on voit vraiment comment ces gens peuvent être identifiés en relation avec ce qu'ils ont été sur terre. Ils sont là, ce sont ceux qui ont été mis à mort sur la terre. Donc il y a un lien très, très personnel qu'on peut faire entre ceux qui sont aujourd'hui et ceux qu'ils étaient. Il y a une continuité de l'identité personnelle, tout comme une continuité de la mémoire, puisqu'il dit jusqu'à quand tarderas-tu à venger notre sang ? Donc ces âmes qui sont là, conscientes, sont conscientes de ce qui leur est arrivé. Hein, puisqu'il parle attendras-tu avant de venger notre sang. Elles sont conscientes et adressent à Dieu leurs prières. Elles expriment même au Seigneur leur souci de ce qui se passe sur la terre et de la réalisation des desseins de Dieu sur la terre. Mais elles reçoivent en retour une assurance, une robe blanche, un vêtement blanc, le vêtement du salut, une consolation, il leur dit, de se tenir en repos et des perspectives que Dieu donne en relation avec leurs prières. Cela dit aussi une vie vraiment consciente, riche, dans la présence de Dieu, pas un sommeil dans lequel il n'y a aucune conscience de rien, ni aucune mémoire, ni aucune perspective, mais on a vraiment une vraie vie et une position aussi vraiment dans le ciel. Ils sont là sous l'autel dans les lieux célestes. Et c'est ce que l'Épître aux Hébreux nous rappelle aussi. Elle dit à ces chrétiens pour les encourager à persévérer en disant de quoi se sont-ils approchés par le salut. Il est dit, par leur salut, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la Jérusalem céleste, des myriades d'anges, de la réunion et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du Dieu juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection et de Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance et du sang de l'aspersion. De quoi s'approche-t-on quand on s'approche du salut? On s'approche de toutes les perspectives que le Seigneur prépare, la nouvelle Jérusalem, le Sion, les milliards d'anges, tous les anges, tous ceux qui sont inscrits dans les cieux, hein, et ceux qui nous ont précédés déjà dans les cieux et qui y sont déjà, les esprits des justes parvenus à la perfection. Et donc tout cela dit vraiment le fait qu'il y a là aussi une vraie conscience. Et c'est ce qui permet de dire « Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. » Et c'est ce qui nous rappelle que le Seigneur nous fait la grâce de ne pas nous abandonner au séjour des morts. Et c'est la confiance que nous pouvons avoir. Si nous appartenons au Seigneur, nous ne serons pas abandonnés au séjour des morts. Rien ne peut nous séparer de son amour, ni de la conscience de son amour. Et nous pouvons penser à ceux que nous aimons et qui appartiennent au Seigneur en disant ils sont bien auprès du Seigneur. Ils sont recueillis en sa présence. Ils sont reconnus en sa présence. Mais ceci dans l'attente de ce que le Seigneur fera lorsqu'il nous donnera un nouveau corps pour ce qu'il nous prépare. Alors je termine en revenant à cette question du catéchisme de Heidelberg, elle dit tout finalement, je relis. Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? C'est que dans la vie comme dans la mort, j'appartiens corps et âme, non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle Sauveur. Par son sang précieux, il a totalement payé pour mes péchés et m'a délivré de toute puissance du diable. Il me garde si bien qu'il ne peut tomber un seul cheveu de ma tête sans la volonté de mon Père qui est dans les cieux, et que toutes choses doivent concourir à mon salut. C'est pourquoi, par son esprit, il m'assure la vie éternelle et me rend prêt et disposé à vivre désormais pour lui de tout mon cœur. Et je pense qu'on peut dire amen à cela.